Vous êtes sur les ondes d'Oxygène FM, bienvenue. Je suis en compagnie aujourd'hui du directeur adjoint du musée Soulage. Bonjour Christophe Azeman.
Bonjour à vous.
Accompagné par Guy Mollard et avec Julien Dejoibert de l'association Art Plus. Bonjour.
Bonjour. Bien sûr, c'est arrivé suite à la disparition de Pierre Soulage en octobre 2022. Pour nous, c'est un artiste qui compte à la fois parce que notre galerie s'intéresse à l'art contemporain et que c'est un artiste incontournable de l'art contemporain et en plus d'Occitanie. Donc on s'est dit qu'on ne pouvait pas faire autrement que de faire une conférence hommage à Pierre Soulage et c'est parti de là et on a mûri ce projet depuis fin d'année dernière. Moi j'ai pu rencontrer Christophe Azeman au musée directement pour lui parler de ce projet, pour lui parler de notre association et on arrive quelques semaines plus tard, on est vraiment ravis d'avoir pu mettre sur pied cette conférence.
Christophe Azeman, c'est une habitude de pouvoir de vous déplacer, de sortir du musée à Rodez, Pierre Soulage, pour donner des conférences ?
Oui, parce que ce musée était un musée particulier, puisque nous étions un musée sur un artiste qui était encore en activité.
Oui.
Et donc c'est un musée vraiment actif, justement. Et donc on a choisi, à la mort aussi de Pierre Soulage, de continuer cet héritage, d'être aussi donc, dans cette démarche d'aller rencontrer en dehors du musée, ceux qui ne connaissent pas encore l'œuvre de Pierre Soulage ou ceux qui la connaissent mal, et de défendre au maximum justement cette démarche particulière.
C'est en 2005 que Pierre Soulage et son épouse font un don d'une collection exceptionnelle, 250 œuvres, 250 documents, à la communauté d'agglo du Grand Rodez, parce qu'il est né à Rodez.
Oui, il n'y a vécu que ses 18 premières années, mais comme on dit en Aveyron, Aveyronais un jour, Aveyronais toujours. Et donc il n'y a vécu que ses 18 premières années, mais à un moment donné, il s'est rappelé de ses origines quand il a été sollicité par le maire de l'époque de Rodez, donc, et il a eu cette grande générosité de donner carrément des œuvres à sa ville natale.
6 millions, c'est ça ?
Alors, en valeur, oui. Alors, autant dire qu'aujourd'hui, c'est nettement plus, parce que les œuvres de Pierre Soulage ont connu quand même une inflation assez énorme. Le fait qu'il ait justement eu 100 ans, il y a eu aussi un avant et un après. Le fait aussi, maintenant qu'il est malheureusement disparu. Sa notoriété ne fait que s'accroître à chaque fois.
Et du coup, suite à cette donation, est venue la création de ce musée, puisqu'il faut bien les mettre quelque part, ces œuvres.
Oui, et tout en sachant que ce n'est pas le vœu de Pierre Soulage, ce musée. Quand il fait cette donation, il n'est pas question de faire un musée. Il n'a pas fait de chantage, il n'a pas dit « je vous donne ça si vous me faites un musée ». Sinon, ça aurait été vraiment du chantage. Et quand les élus reçoivent cette donation, eux, ils ont tout de suite cette idée de musée. Ils se disent que c'est peut-être le moment de désenclaver un territoire, de proposer quelque chose d'artistique et culturel, de faire venir du monde d'un petit peu partout. Parce qu'avant qu'il y ait ce musée, Rodez, personne ne savait réellement où c'était.
Oui.
Et ils vont se dire que c'est le moment peut-être de faire quelque chose à Rodez. Et donc ils ont pris leur courage à deux mains. Ils sont allés voir Pierre Soulage. Ils lui ont demandé « est-ce qu'on peut faire un musée à partir de votre donation ?» Et évidemment, Pierre Soulage a répondu non. Et il a même répondu non plusieurs fois. Parce que pour lui, c'était vraiment inenvisageable d'avoir un musée alors qu'il était encore en vie. Avoir un musée de son vivant, c'est vraiment très, très, très exceptionnel.
Ah oui.
Et donc, je parle d'un musée public, évidemment. Un musée privé, vous pouvez ouvrir un musée privé comme vous le voulez, mais un musée public, donc une collection publique sur un artiste encore en activité, c'était vraiment exceptionnel. Nous étions le seul cas en France, en Europe, et nous étions un des rares cas dans le monde.
Mais quand il a fait le don de ses œuvres, il pensait que finalement, elles allaient finir où, ces œuvres ? C'est un peu logique qu'il y ait un musée, non ?
Oui et non. Parce qu'au départ, ce qu'il va donner, c'est des choses qui sont en lien avec l'Aveyron. Il donne des choses de jeunesse, parce qu'il n'y a vécu que ses 18 premières années. Et sinon, il donne des choses qui sont en lien avec Conques. Puisque Conques, c'est ce village en Aveyron pour lequel Pierre Soulage a refait les vitraux de l'abbatiale. Et donc, il donne des cartons préparatoires, des dessins. Et au départ, il souhaite simplement qu'il y ait des expositions temporaires de temps en temps. Il n'y a pas de vocation vraiment à être un musée. Et finalement, il y aura eu un musée quand même si lui a dit non. Parce que lui, quand il entend musée, quand on lui parle de musée, il entend mausolée. Parce qu'il a déjà plus de 80 ans. Alors qu'en fait, il lui-même l'ignore, mais il a encore 22 ans à vivre derrière et à faire de la peinture jusqu'en 2022. Donc, autant dire qu'il était loin d'avoir fini. Et donc, il va accepter finalement parce que les élus vont vraiment beaucoup insister. Et au bout d'un certain temps, il va leur dire « Ok, c'est bon, j'ai compris là chez moi en gros ». Et il va même faire une deuxième donation et il a donné plus de 500 œuvres au total. Ce qui est vraiment énorme, ce qui est la plus grosse donation qui n'ait jamais été faite par un artiste de son vivant.
Les autres œuvres, c'était du coup quelle période alors ?
Alors il y a à peu près toutes les périodes qui ont été représentées. D'ailleurs, nous sommes un musée aussi particulier parce qu'on présente des œuvres de 1934 jusqu'à nos jours actuellement dans ce musée. Donc toutes les périodes, toutes les différentes différentes techniques, parce qu'on a aussi l'intégralité de ces estampes, on a aussi les œuvres sur papier, on a les brous de noix, on a une céramique qui est un travail unique dans son travail, et on a les bronzes. Donc c'est vraiment un musée qui est aussi très pédagogique, parce que ça permet de comprendre aussi la démarche de Pierre Soulages et comment est-ce qu'avec ces différentes techniques, il a quand même toujours suivi son travail à lui, sa démarche à lui et son autre manière d'envisager les choses.
Et dans ce musée aussi, il y a une salle d'exposition temporaire pour les autres artistes aussi.
Oui, et ce qui est un geste de générosité assez improbable. Oui. Parce que quand on lui propose donc ce musée, on lui dit, voilà, il y a à peu près 2500 m² d'espace d'exposition. Mmh. Il va dire, ok, je vais renoncer à un quart de l'espace d'exposition disponible pour le mettre à disposition d'autres. Et ce qui est quand même sacrément généreux. Et surtout aussi, il faut avoir... les reins solides, parce qu'il a accepté aussi qu'il y ait une salle d'exposition dans cette salle, on a fait défiler des expositions sur Calder, sur Picasso, sur Le Corbusier, sur Klein, sur Fernand Léger. Ouais. Donc il faut aussi se dire que son travail est assez solide pour vivre à côté de ça aussi. Et c'est là aussi qu'on voit aussi toute la puissance de cette œuvre-là, puisque l'œuvre de Pierre Soulages n'a jamais été dans l'ombre de ces artistes. Au contraire, ça a vraiment été quelque chose de complémentaire. En tout cas, ça s'est ajouté, ça n'a pas nuit à l'œuvre de Pierre Soulages, bien au contraire.
Un musée qui s'est ouvert en 2014 ?
Oui, exactement. Et au départ, quand ils ouvrent le musée, ils pensaient qu'il y aurait 50 000 à 60 000 visiteurs par an dans ce musée. Et en fait, tout le monde se plante.
Il y en a beaucoup plus.
Oui, exactement. La première année d'exploitation, il y a eu 250 000 visiteurs. Et chaque année, nous faisons entre 130 000 et 180 000 visiteurs par an. On a fêté notre millionième visiteur en 2020. Wow. On a à peu près 1 300 000 visiteurs. Et quand on ramène ça en fait à la dimension de la ville et l'enclavement dans lequel nous sommes, on peut dire qu'effectivement, Pierre Soulages a fait un sacré cadeau à cette ville.
C'est un artiste international, Pierre Soulages.
Oui, il est connu dans le monde entier. Il est présent dans plus de 110 musées dans le monde.
Oui.
On a à peu près 25% d'Aveyronnais. Ensuite, on a une proportion importante de régionaux, mais beaucoup plus largement, après, donc les départements que nous recevons, les visiteurs donc des départements qu'on reçoit le plus, c'est Paris, c'est Bordeaux, c'est Lyon, c'est beaucoup d'extra Occitanie. Et donc, on peut monter jusqu'à pratiquement 10 à 15% de visiteurs étrangers pendant l'été. Ce qui est pareil, assez énorme. Donc on a aussi des choses parfois particulières, parce qu'on n'imagine pas en fait le radeau Pierre Soulages. Et il y a un petit aéroport à Rodez, et parfois on a des jets privés qui se posent directement de Tokyo ou de New York venir donc, voir donc, le musée Soulages. Et ça, c'est vrai que on ne peut pas s'y attendre, quoi. C'est vraiment improbable.
Christophe Hasman, vous êtes directeur adjoint du musée Soulages depuis combien de temps maintenant ?
Ça fait 5 ans maintenant que je suis arrivé, donc je n'étais pas là au départ, même si en fait j'habitais en Aveyron avant l'ouverture du musée. Je suis revenu pour revenir dans ce musée parce que j'ai vécu sinon en région parisienne, j'ai vécu à Lyon, donc j'ai quand même vu beaucoup de musées aussi dans des grandes villes. Et à un moment donné, il y a eu cette opportunité absolument incroyable de pouvoir être dans un musée à dimension internationale, mais à Rodez, avec la qualité de vie qui va avec. Et donc, je crois qu'on ne peut pas rêver mieux.
La particularité de ce musée
C'est que la particularité a changé depuis peu de temps.
C'est que l'artiste était vivant.
C'est que l'artiste était vivant et que j'ai eu cette chance inouïe. Et je suis conscient de la chance que j'ai eue de pouvoir rencontrer Pierre Soulages, d'aller dans son atelier, de pouvoir travailler avec lui. Et donc de connaître aussi bien l'homme que l'artiste. Et les deux étaient formidables. Et donc c'était de connaître aussi Madame Soulages, Colette Soulages, qui est encore en vie aujourd'hui.
Oui.
Et donc qui a pratiquement 102 ans dans quelques jours. Et donc nous travaillons avec elle actuellement, et donc c'est une chance inouïe de pouvoir travailler avec des personnes de ce niveau-là. Et on a l'impression d'être pas grand-chose à côté. Et effectivement, on n'est pas grand-chose à côté parce qu'ils ont une telle vie. C'est des vies héroïques, mais tout dans la simplicité. Et c'est vrai qu'on est nourri par ça. On est nourri par les histoires qu'ils racontent, par la démarche qu'ils ont, par leur comportement, par leur façon de vivre. Et tout ça est très nourrissant.
Peut-être une particularité dont on parlait aussi tout à l'heure, c'est que c'est un musée avec des grandes baies vitrées.
Oui. Et c'est vrai on est pratiquement effectivement le seul musée du monde aussi à avoir des grandes baies vitrées.
Comment ça s'est fait alors ?
Parce que la vitre, c'est l'ennemi dans un musée, c'est vraiment le truc, la cata. Parce que généralement, ça fait des reflets sur les vitres de protection des œuvres, donc on ne voit pas bien les œuvres. En plus, ça abîme les œuvres, hein, la lumière naturelle, j'entends évidemment, parce que ça fait jaunir les papiers, ça abîme donc les œuvres et la peinture. Et d'où dans ce musée, on a cette chance justement d'avoir des œuvres qui vivent avec la lumière, parce que c'est la lumière qui va donc faire varier les œuvres. Le principe même de l'œuvre de Pierre Soulages, c'est ça, c'est l'idée de la lumière. Et à partir de 79, quand il invente l'outre noir, c'est justement cette lumière naturelle qui fait que l'œuvre n'est jamais la même, et que quand on vient la voir le matin, l'après-midi ou le soir, selon l'endroit où on va être, en plus, si on est à gauche, en face ou au milieu, on ne verra pas la même œuvre. Et c'est ce qu'il a inventé et qui fait que nous avons un musée qui est très lumineux pour le coup, même si en fait le musée est très sombre par ailleurs, parce que les murs sont sombres,
oui.
Mais comme il y a les grandes baies vitrées, donc le projet des architectes aussi est très intéressant, parce qu'ils ont fait une transcription de l'œuvre de Pierre Soulages en architecture. Et donc on a un écrin parfait. Je ne connais pas d'autre endroit au monde où on peut mieux voir les œuvres de Pierre Soulages qu'au musée Soulages.
Des œuvres un peu vivantes, un peu comme la nature d'ailleurs, elle change à chaque fois, selon la lumière, selon le temps, les températures, les saisons. Les œuvres de Pierre Soulages, c'est ainsi. Est-ce que vous arrivez à être, je ne sais pas si vous allez pouvoir me répondre à cette question, je ne dirais pas lassé par les tableaux.
Jamais.
Bon voilà, vous comprenez le sens de ma question.
Bien sûr, mais surtout qu'en fait, je comprends qu'à un moment donné, quand on a la Joconde sous les yeux en permanence, au bout d'un moment, peut-être qu'on finit par ne plus la regarder. Mais les tableaux de Pierre Soulages, étant donné que ce n'est jamais le même tableau qu'on regarde, puisque donc il change à chaque seconde, et que donc il suffit de faire un pas aussi sur le côté pour le voir autrement, ce qui fait que finalement c'est un tableau qui se renouvelle en permanence, et je suis incapable de me lasser de ses œuvres. Et j'y passe, alors j'avoue, tiens, je vais le dire, je ne devrais pas le dire d'ailleurs, je faisais partie de ceux qui ont regretté en fait l'après-Covid, vous savez, quand on a réouvert le musée, parce que pendant le Covid, je ne devrais pas dire ça, mais je vais le dire quand même. En fait, pendant le Covid, on allait tous les jours quand même au musée pour la sécurité, pour veiller à ce que tout se passe bien et tout ça. Donc tous les jours, on allait quand même dans le musée par roulement. Donc moi, on y allait donc une fois tous les deux jours par roulement avec mon directeur. Et donc une fois, un jour sur deux, j'avais le musée pour moi tout seul.
C'est trop bien.
Et donc je passais des heures entières à regarder les œuvres sous tous les angles et tout ça. Mais après, je suis très content de les offrir aussi au regard du public. Évidemment, c'est quand même le but. Mais j'avoue que pendant c'est un moment très privilégié.
Mais complètement, c'est vraiment privilégié. Et je pense que des visites hyper, ultra privées pourraient rapporter aussi énormément.
Oui, c'est vrai.
Christophe Hazeman, il y a combien d'œuvres actuellement dans ce musée ?
Alors, entre les œuvres accrochées et celles que nous avons dans nos réserves, donc à peu près 500 œuvres au total, total. Après, il doit y avoir, je pense, 150 œuvres, je pense, exposées en permanence. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est aussi le côté particulier, c'est qu'on présente en plus des œuvres très diversifiées, avec un accrochage à chaque fois recherché.
Oui.
Et un accrochage en plus qui a été le fruit du travail des architectes avec l'artiste. Puisque quand le musée s'ouvre, avant l'ouverture, les architectes ont pu rencontrer Pierre Soulages, évidemment, puisque Pierre Soulages était encore en vie, et donc ils ont pu donc aménager ce musée pour présenter les œuvres au mieux. Et ce qui fait que ce musée n'est pas du tout un musée comme les autres. La plupart du temps, quand on rentre dans un musée, les murs sont blancs, vous avez beaucoup de lumière, vous avez une lumière qui est très travaillée. Dans ce musée, nous, on a vraiment une particularité, c'est que déjà, on descend dans le musée, alors que d'habitude, soit on monte dans le musée ou on reste au même niveau, nous, on descend dans le musée, et on arrive dans le musée comme on arriverait sous terre. Et on arrive dans un monde vraiment particulier, parce que les murs sont sombres, il y a une lumière qui est très travaillée. Après, on passe dans un endroit avec les grandes baies vitrées qui sont sur le côté. Et donc, vous avez des alternances entre des espaces qui sont travaillés avec la lumière naturelle. Parce que même dans les espaces fermés où il n'y a pas les baies vitrées, on a quand même des baies vitrées au plafond qui sont cachées ensuite par des sortes de rails comme ça, et qui permettent d'avoir une lumière naturelle zénitale, mais indirecte dans les salles fermées. Et ce qui fait qu'alors, petit conseil à ceux qui veulent venir au musée Soulages, essayez de viser un jour où vous avez pas mal de passages nuageux, parce que donc les jours où il y a du vent et que le soleil passe très, il y a des nuages qui passent très vite devant le soleil, vous avez des variations déjà donc de lumière, d'intensité de lumière dans les espaces déjà, et en plus ça vous permet de voir des variations aussi de lumière sur les œuvres, donc notamment pour regarder les outres noires, et donc là c'est des jours parfaits pour regarder donc les œuvres de Pierre Soulages et pour errer dans le musée.
Pierre Soulages est décédé le mardi 25 octobre, à l'âge de 102 ans. Quelque chose pour vous de touchant?
C'était dramatique, mais je pèse mes mots. En plus, aussi bizarre que ça puisse paraître, on n'était pas prêts. Pour la reine d'Angleterre, par exemple, tout était organisé depuis 15 ans au moins, je pense. Nous, on a été cueillis. C'est-à-dire qu'on n'avait pas de dossier de presse, on n'avait pas de spécifique pour ça, on n'avait pas fait un texte spécifique pour ça, on n'avait pas la photo déjà prête. C'est-à-dire qu'on comme on travaillait avec lui, et que quand on se voyait, alors qu'il avait déjà presque 101, 102 ans, à chaque fois on discutait de projets pendant 5 ans. Et ça dérangeait personne. C'est-à-dire que personne se disait à un moment donné, il peut disparaître. Et lui-même non plus. Donc c'est-à-dire qu'on était dans la vie avec lui. Et ce qui fait qu'on ne s'y est pas attendu, alors qu'il avait 102 ans et qu'effectivement c'était dans l'ordre des choses. Mais on n'était pas là-dedans. Et ce qui fait qu'on a été. On a été cueillis. En plus, d'un seul coup, le standard téléphonique du musée a sauté parce que le monde entier nous a appelés. C'est-à-dire qu'on devait répondre à la fois donc, au journal local, mais en même temps, vous aviez donc sur l'autre ligne, vous aviez le New York Times, vous avez l'agence Reuters. En fait, le monde entier nous a appelés pour avoir justement un texte, pour avoir une photo, pour avoir un truc. Et on n'avait rien. Et on avait déjà à gérer notre émotion parce que c'était vraiment, on était très proche de Pierre Soulages. Et on avait déjà à gérer notre émotion de ce moment-là. Et en plus, il fallait aussi essayer de répondre à cette demande. Et donc, ça a été assez dramatique. Et encore aujourd'hui, quand je fais des conférences ou quand je fais des visites, parce que parfois aussi, j'aime beaucoup transmettre, donc je fais parfois des visites aussi commentées, je n'arrive toujours pas à parler au passé. Et donc, je suis toujours dans cette idée de cette vie qui continue.
Il continue encore à peindre?
Alors, il a continué à peindre vraiment pratiquement jusqu'au bout. Sa dernière œuvre, elle date de mai 2022. Et il est mort en octobre 2022, tout en sachant qu'en plus, il ne gardait pas toutes les œuvres qu'il produisait. Donc, il y en a certaines dont il se débarrassait. Mais la dernière, donc, il a réellement datée, donc il a assumé, entre guillemets, elle date de mai 2022. Donc, il a peint vraiment pratiquement jusqu'au bout.
Ces toiles noires sont abstraites et sombres, mais pas si sombres que ça en réalité.
Alors, très souvent, on dit que Pierre Soulages est le peintre du noir.
Oui.
C'est faux.
Oui.
Qu'on se le dise. C'est le peintre de la lumière. Et c'est vraiment toute la différence. C'est-à-dire que lui, le noir ne lui sert finalement que d'outil pour révéler la lumière. Et donc, très souvent, les visiteurs, quand ils viennent dans le musée, ils ont un a priori, ils se disent, on va voir des trucs tout noirs, ça va être déprimant. Et très souvent, en fait, ces visiteurs-là, ce sont ceux qui sont les plus faciles à convaincre. Parce qu'ils se mettent devant la toile et d'un seul coup, ils s'aperçoivent que, non, c'est de la lumière. Et ils repartent convaincus par cette démarche particulière qui fait qu'il a vu autre chose que simplement ce qu'on a simplement sous les yeux. On a l'impression de regarder du noir. Si on regarde ces tableaux avec son cerveau, on se dit c'est du noir, mais si on le regarde simplement avec ses yeux, on va s'apercevoir que c'est vraiment pas que du noir, c'est aussi de la lumière et aussi carrément d'autres couleurs, parce que en fonction de l'heure de la journée, parfois pareil au musée, donc les œuvres sont aussi en face des fenêtres, selon l'angle aussi. Quand le ciel devient orangé le soir, comme ça arrive actuellement parfois de temps en temps, ce orangé vous le retrouvez dans les tableaux. Vous avez des bleutés, vous avez des verts, parfois on peut trouver aussi vraiment d'autres couleurs dans le noir.
Alors, ça va être peut-être une question très difficile pour vous, Christophe Hazeman, je rappelle, directeur adjoint du musée Soulages. Quelle est votre œuvre préférée de Soulages?
Oh là là!
Et voilà! Vous n'en avez pas! C'est pareil pour Julien et Guy, autour de la table.
En fait, après lui, ça va être difficile d'en parler puisque les gens ne vont pas la voir en direct. Mais après, s'ils viennent au musée, c'est une œuvre qui date donc de 67 et qui est une œuvre avec du bleu. Un bleu très profond avec donc une sorte de voile noire dessus, et dedans vous avez des sortes de puits de lumière parce qu'il y a des endroits qu'il a laissés en réserve, et donc on voit des traces de blanc comme ça qui paraissent venir du fond de la toile, comme si en fait il y avait des flashs, des lumières qui venaient de l'intérieur de la toile. Et donc on a déjà les flashs directs, et après vous avez en plus la lumière qui semble traverser les différentes couches de couleurs parce que ça semble traverser le voile bleu puis le voile noir, et donc ça donne une sacrée tension lumineuse. Et j'aime beaucoup cette œuvre là parce qu'en plus cette œuvre-là, quand on est devant, à un moment donné, on se rend compte que du noir pour cette œuvre-là, il n'en a pas utilisé une seule goutte. Et qu'en fait, c'est vraiment du bleu sur le bleu, et qu'en mettant la même couleur sur une couleur, ça la rend plus sombre. Et après, c'est un travail très technique. Pierre Soulages, c'est vraiment très technique. C'est beaucoup de technique. Et donc, ce qui fait qu'il a mis le blanc tout d'abord, puis le bleu. Et ensuite, il remet le même bleu qui paraîtra plus sombre, sauf qu'après, il va le brosser et de telle manière à le rendre pratiquement translucide. Et qui fait qu'on continue à avoir le bleu qui était en sous-couche, qui lui-même déjà avait été travaillé pour qu'on continue à avoir le blanc qui est derrière. lumière. Et donc ça donne une tension lumineuse très intéressante, et surtout ça donne aussi des enjeux sur de la lumière, sur la couleur. Venez la voir.
On peut aller la voir. Julien et Guy, la même question du coup.
Ben en fait, moi, il y a une œuvre qui m'a marqué quand je suis allé voir le musée. C'est un peu, ça ressemblait un petit peu à l'œuvre qu'a décrite Christophe Hazeman, mais sauf qu'elle est dans les blancs, les ocres et les noirs. Et en fait, quand j'y suis allé, j'avais l'impression que le tableau avait des lumières à l'intérieur, enfin qu'il était éclairé de l'intérieur. Et en fait, c'est juste des effets de couleurs qui donnent cette impression qu'il y a un néon en fait dans la toile, en fait que le tableau est rétro-éclairé. Enfin, moi, ça m'a saisi, quoi. Je ne sais pas s'il a un nom, ce tableau.
Oui, j'allais vous demander.
Je ne sais pas.
Fait, le nom des tableaux, c'est toujours technique, dimension, date. Ah. Et donc, c'est toujours un titre très technique, justement. Parce qu'il savait très bien que quand on regarde les œuvres de Pierre Soulages, elles peuvent avoir une dimension presque comme les tests de Rorschach. Vous savez, les taches d'encre qu'on montre chez le psy, parfois, et généralement, on y voit un bonhomme ou un papillon. La plupart du temps, on peut projeter sinon ce qu'on a envie de projeter. Et Pierre Soulages, il savait très bien que s'il mettait un titre un tant soit peu ésotérique sur ses œuvres, on partait directement là-dedans, et dans une espèce d'interprétation psychologique ou autre chose, alors qu'en lui, il n'en faisait qu'une vision frontale de la lumière. Mmh. Et le fait que donc, il proposait donc des techniques dimension-date, et je vois très bien...
C'est le nom du parrain. Donc, c'est quoi son nom, alors?
Oui.
Quoi, vous ne connaissez pas les noms par cœur?
Non, on va retrouver, on va rechercher.
Et Guy?
Ben, tout, moi j'aime beaucoup les couleurs avec le noir. Le noir tout seul, vraiment, vraiment tout. Moi, j'ai été vraiment subjugué quand j'ai visité la première fois le... Alors, c'est très intéressant parce que tout à l'heure, vous avez dit on descend dans ce... Et c'est intéressant parce que sous là, j'aimais beaucoup dire que les hommes préhistoriques travaillaient dans des grottes et ils peignaient avec du noir, dans des grottes noires. Et donc là, on a l'impression, quand on descend dans le musée, de descendre un petit peu dans une grotte. Enfin, moi, j'avais toujours trouvé que c'est... J'aime énormément. Je trouve ça très, très bien. Tout à l'heure, vous avez dit qu'il a accepté Léger, qu'il a accepté tous ces grands noms. Mais je veux dire que ça va de soi. Je veux dire que la question ne se pose même pas. Je veux dire, quand on voit ces toiles, il n'y a personne, finalement, qui peut être... il ne peut pas, lui, en tout cas, être modeste devant ces toiles. Donc moi, j'aime tout. Enfin, bon, évidemment, un petit peu, peut-être un peu plus, les couleurs. Il y a notamment un tableau rouge et noir que j'aime beaucoup. Et puis le bleu, bien sûr. Mais je veux dire, le noir est très bien aussi. Voilà. C'est parfait.
Pierre Soulages s'intéresse à la préhistoire quand il était plus jeune.
Oui, beaucoup.
Vous pensez que ça l'a influencé aussi?
Énormément, même, sur cette manière d'envisager les choses, sur quelque chose de différent, sur une autre manière d'envisager la peinture. L'idée, effectivement, de partir dans les profondeurs, de partir dans le noir et d'aller peindre. Après, il faut toujours se méfier parce qu'on a l'impression que c'était ça l'art pariétal, alors qu'en fait, c'est ce qu'on a retrouvé de l'art pariétal, et justement, on l'a retrouvé parce que c'était protégé. Rien ne dit qu'il ne pouvait pas y avoir aussi des peintures sur des rochers, mais qu'on les a perdus depuis, qu'il ne pouvait pas y avoir d'autres formes d'art, mais qu'on n'a pas retrouvé. On n'a retrouvé finalement que ce qui reste dans les grottes. Donc il faut quand même toujours se méfier de surinterpréter les choses. Mais Pierre Soulages a été bouleversé par la découverte donc, de ce qu'il a pu voir, parce que dans notre territoire, donc en Aveyron, dans le Lot aussi beaucoup, en Dordogne également, il y a énormément de grottes ornées, et donc il en a vu beaucoup, et ça lui a donné aussi le goût aussi de s'interroger sur ce qu'est l'art, parce qu'il racontait aussi que quand il était enfant, quand il était adolescent, on lui apprenait que l'art en gros ne commençait qu'avec les Grecs, ou que l'art globalement, quand vous regardez dans un livre d'histoire, la plupart du temps on commence à vaguement à la période de la Renaissance, et que on estime que l'art finalement n'existe qu'à partir de ce moment-là et qu'elle n'est digne qu'à partir de ce moment-là. Et lui, quand il a découvert donc le fait qu'il y avait déjà des artistes et de la peinture de ce niveau-là, avec Altamira qu'il a découvert, avec aussi Lascaux, et alors autant dire que quand il a découvert ensuite Chauvet et qu'on a reculé pratiquement du double, qu'on est passé à moins de 32 000 ans, évidemment ça remet les choses en perspective.
Conférence, donc, et c'est ce que vous proposez, donc, du coup, pour cette conférence-là, hein, au Rex, Cinéma Rex, à Pamiers, proposée par l'Espace d'art contemporain des Carmes. Vous proposez donc une conférence sur Pierre Soulages, mais précisément, parce que là, et je vois aussi que il y aura aussi des spectateurs. Dans quel sens ?
Je vais m'intéresser au fait que Pierre Soulages a changé la donne en faisant des œuvres qui impliquent aussi le visiteur, ou en tout cas le regardeur, on va dire, celui qui regarde l'œuvre, puisque c'est le déplacement du regardeur qui fait vivre l'œuvre, qui va lui permettre de voir les lumières, les couleurs se modifier. Et donc, il a donné une nouvelle dimension à l'œuvre en impliquant aussi celui qui regarde l'œuvre. Et donc, je me suis dit que c'était aussi intéressant de peut-être proposer d'autres artistes qui avaient travaillé aussi dans ce domaine-là et de voir comment est-ce que des artistes plus ou moins contemporains, d'ailleurs, ont investi aussi cette portion de l'art qui intègre dedans aussi celui qui regarde. Et que simplement un visiteur, un regardeur, un spectateur qui regarde une œuvre peut devenir aussi un spectateur, puisque il va aussi devenir un acteur de l'œuvre, soit en la déclenchant par son geste. On peut penser par exemple à Calder qui, avec ses mobiles, quand les spectateurs rentrent donc dans le champ de l'exposition, ça fait un déplacement d'air qui fait que ça va faire tourner aussi donc les mobiles. Donc là, le spectateur devient aussi un spectateur, et aussi donc des artistes qui ont aussi englobé l'idée de la performance, et qui fait que dans la performance, parfois aussi, il y a l'intervention donc de ceux qui regardent et qui deviennent finalement autres, qui deviennent aussi des acteurs. Je pense notamment à des artistes de la performance, Marina Abramović, qui avec son mari a créé des performances, notamment une qui est assez fameuse, où pour rentrer dans la salle d'exposition, il fallait passer entre leurs deux corps nus qui étaient de chaque côté de la porte. Et donc, ce qui fait que pour rentrer dans l'exposition, mais pour rentrer dans l'exposition, vous deviez donc entrer en contact avec l'un ou l'autre, et ça donne un jeu très intéressant, parce qu'on se demandait finalement, ça parlait aussi de la personne qui passait à ce moment-là, parce que selon si elle se tourne du côté de l'homme ou du côté de la femme, il y a ceux qui sont incapables de rentrer parce qu'ils ne peuvent pas, il y a ceux qui passent direct
qui regardent pas
exactement. Et donc ça révèle aussi en fait le spectateur, et donc il y a beaucoup d'artistes qui se sont interrogés sur la place de celui qui regarde l'œuvre ou de celui qui peut pas carrément aussi participer à l'œuvre. Et c'est ce que je vais expliquer justement dans cette conférence.
Souhaitez-vous rajouter autre chose, Guy et Julien ?
Non. C'est un genre de test, quoi, finalement. Non, je trouve que j'ai beaucoup appris, donc je suis très, très, très heureux qu'il y ait donc cette conférence ce soir. Avec Julien, on s'est investi, bon, surtout lui, et donc je pense que vraiment on va être très content, ça se déroule très très bien, il y a beaucoup de monde, donc c'est tout est parfait.
On est très content, et même Christophe Hasman a pu se libérer un peu plus tôt aujourd'hui, ce qui lui a permis d'arriver ce matin à Pamiers, et ce qui nous a permis d'aller visiter une classe de l'école Notre-Dame de Pamiers, la classe option art.
Oui.
Ça, c'était quand même vraiment, vraiment bien, assez inattendu. On a pu le faire, donc on l'a fait. On remercie vraiment Christophe Hasman pour ça, et on l'a fait à l'école Notre-Dame parce qu'on a un partenariat avec la galerie, en fait, a un partenariat avec cette école, et qu'ils ont cette classe avec option art. Et donc, il y avait quand même une petite trentaine d'élèves qui a écouté. J'ai trouvé presque un peu trop religieusement, ils avaient du mal à participer, mais je pense qu'ils étaient captivés par tous ces sujets-là. Et ils sont même invités ce soir à la conférence, donc on verra s'ils continuent et s'ils viennent ce soir.
Voilà. Bon, il en ressortira forcément quelque chose de ces rencontres. Je vous remercie également. Alors, je souhaite remercier Guy et Julien. Je vous remercie, puisque grâce à vous, nous sommes ensemble aujourd'hui pour cette émission de radio avec vous. Christophe Hasman, directeur adjoint du musée Soulages. Alors, on pourra en parler des heures, hein, mais on va s'arrêter là. Pour le musée, rappelez-nous, donc, justement, il y a des conditions. On peut se rendre au musée à quel moment ? Un petit récap, du coup.
Alors, nous sommes ouverts du mardi au dimanche, la plupart du temps, entre septembre et juin, parce que en juillet et août, on est ouvert 7 jours sur 7.
Ah, oui.
C'est ouvert entre 10h et 18h. Et j'invite effectivement ceux qui veulent venir à venir, parce que c'est une vraie découverte à faire. Oui. Et surtout, je ne peux que conseiller de prendre aussi des visites commentées ou un audio guide, en tout cas de se faire accompagner, parce que c'est aussi une manière de pouvoir comprendre mieux les œuvres, parce que c'est une autre manière de penser les choses qu'a créé Pierre Soulages. C'est une autre manière de regarder les œuvres, et c'est des codes que nous n'avons pas de manière naturelle, on va dire, et ce qui fait que je ne peux que encourager à être accompagné donc pour la découverte donc des œuvres de Pierre Soulages. Ça permet de les comprendre d'autant mieux et d'en profiter encore mieux.
Est-ce que si on est en situation de handicap, on peut aussi venir ?
Oui, pour tout le type de handicap d'ailleurs, nous sommes un musée relativement jeune, et ce qui fait qu'on a aussi beaucoup œuvré pour accueillir le plus largement possible. Et donc on fait beaucoup d'actions aussi pour les personnes issues du champ médical, mais également du champ social. On a beaucoup d'actions que nous faisons avec différents types de publics, les publics aussi des prisons, le public des hôpitaux, des EHPAD. En fait, on a vocation à travailler avec tous les publics, et donc on travaille des outils pour les accueillir, et aussi, on travaille aussi des actions pour les accueillir. Donc on est un musée, que je disais tout à l'heure en introduction, on n'est pas un musée fermé du tout, on a un musée ouvert et un musée qui se veut dans l'action.
On terminera donc sur ces quelques mots, ces derniers mots. Christophe Hazeman, directeur adjoint du musée Soulages, merci Guy Mollard, et merci Julien également.